Et en fait, j'ai travaillé sur ces questions il y a bien longtemps, à un moment donné où elles n'intéressaient absolument personne, dans les années 1990, quand j'ai fait ma thèse sur les lois d'exception et la répression judiciaire des nationalistes algériens pendant la guerre d'Algérie. Et donc, j'ai l'habitude d'intervenir dans des assemblées de juristes sans l'être moi-même. Je peux vous livrer ce que j'ai en bagage comme historienne, et ensuite les usages peuvent être dans la discussion. Vous verrez, sous le titre que j'ai pris, État d'urgence et guerre d'indépendance algérienne, un précédent exemplaire. Je ne voulais pas céder à la tentation de tirer les leçons, parce que pour un historien c'est relativement gênant, si bien que les leçons du passé elles n'existent pas ou elles n'ont pas forcément d'efficacité, et puis surtout dès qu'on réfléchit un peu de près à la question, on s'aperçoit à quel point les conditions sont totalement différentes entre la guerre d'indépendance algérienne et la lutte contre le terrorisme aujourd'hui, sans parler des conditions institutionnelles et politiques, ou bien quelque chose aussi qui me semble quand même beaucoup plus important, c'est le rapport entre l'administratif et le judiciaire. Il y a quand même aujourd'hui beaucoup de débats sur l'intervention du juge, et le juge qui est considéré comme un garde-fou sur toute une série de mesures. C'était vraiment pas le cas pendant la guerre d'Algérie. Il n'y avait pas les mêmes notions de ce qu'étaient les juges, de ce à quoi ils pouvaient, merci, excusez-moi, de ce à quoi ils pouvaient servir. Simplement, si je veux le mettre en diaporama, est-ce que c'est... Non. Voilà. Bon, ce sera... Vous ne voyez rien ? Ah ben voilà, très bien. Alors, l'idée de mon intervention, c'est pas tirer les leçons de l'histoire, parce que j'ai plus d'illusions sur ce fait. Simplement, c'est vous, à travers l'histoire de l'état d'urgence, vous montrer des questions qui se sont posées à l'époque, qui ressurgissent aujourd'hui, et donc essayer de vous dire un petit peu comment les réponses qui ont été apportées peuvent nous aider aujourd'hui à réfléchir sur des points tout à fait actuel. Alors, j'aurai trois points à vous présenter. Le premier point, c'est sur la question de l'état d'urgence comme une loi coloniale, puisque dans les discussions autour de l'état d'urgence, bien sûr, on rappelle toujours le fait non seulement que la loi a été promulguée, mais elle a été faite, elle a été élaborée précisément pour lutter contre le déclenchement de l'insurrection algérienne. 1er novembre 1954, ce sont les attentats revendiqués par le FLN, l'état d'urgence voté le 3 avril 1955. Donc c'est une loi nouvelle, créée pour l'Algérie. Je vous en ai mis cependant l'exposé des motifs, qui est intéressant parce que, en fait, il montre que on n'a pas du tout réfléchi par rapport au droit colonial, c'est-à-dire que ce n'est pas une loi qui puise son origine dans des dispositions du droit colonial. Si vous avez ici l'exposé des motifs, en fait, il est construit de la façon que vous voyez ici. Le gouvernement commence par expliquer pourquoi il ne recourt pas à l'état de siège, et ensuite, là, pratiquement la phrase ultime de l'exposé des motifs, c'est « l'Algérie, partie intégrante du territoire national, ne peut se voir dotée d'un régime d'exception ». En fait, le problème pour les... Il y a deux gouvernements qui ont conçu l'état d'urgence, Pierre Mendès-France et Edgar Faure, entre novembre 54 et avril 55. Leur problème, c'est que l'Algérie est constituée de départements. Ça encore, juridiquement, ça se contourne. On peut déclarer l'état de siège dans les départements. Le problème principal, c'est qu'ils ne veulent pas reconnaître un état de guerre, et ils ne veulent surtout pas risquer de mettre le doigt dans l'engrenage vers une reconnaissance de l'état de guerre, une reconnaissance des maquisards algériens comme des combattants. Donc, au motif que l'Algérie est une partie intégrante du territoire national et qu'on ne peut pas la doter d'une législation d'exception, d'un côté, de l'autre qu'on ne va pas déclarer l'état de siège parce que c'est inapproprié politiquement, eh bien, les deux gouvernements ont décidé d'introduire dans le droit français un nouvel état d'exception qu'ils présentent comme étant intermédiaire entre le droit commun et l'état de siège, Et une fois que cette loi a été introduite dans le droit français, eh bien, elle peut être déclarée en Algérie, mais finalement comme sous toute autre portion du territoire national. Donc le gouvernement veut à tout prix éviter d'abord la qualification militaire qu'aurait entraîné l'état de siège, mais surtout aussi, surtout pas traiter l'Algérie de façon différente de la métropole, parce que sinon c'est la brèche ouverte pour les nationalistes. Du coup, les débats à l'Assemblée nationale sont relativement intéressants, parce que je vous ai mis là un certain nombre d'interventions de députés qui interviennent contre le projet de loi et qui, en gros, combattent l'état d'urgence, évidemment pour une partie d'entre eux au nom de la situation en Algérie, mais aussi au motif que c'est une loi qui pourrait servir une répression métropolitaine. Alors, en particulier les communistes, mais ils ne sont pas les seuls. Vous avez ici, il y a un contexte particulier en plus, c'est qu'à ce moment-là, il y a une ratification des accords de Paris qui commence à ouvrir la voie à un réarmement de l'Allemagne, et les communistes sont très mobilisés. Donc ils expliquent que l'Algérie, la situation en Algérie, ce n'est qu'un prétexte pour introduire dans le droit français une loi qui pourrait servir à toutes les mobilisations du mouvement ouvrier. Alors quand j'ai lu ça dans les années 90, je trouvais ça délirant comme argumentation, je ne vous le cache pas, pardonnez-moi la familiarité de mon expression. Et puis en 2005, je me suis dit, finalement, ils étaient relativement visionnaires. Et là, je suis retournée voir les débats. Et finalement, quand on a cette lecture coloniale, on passe complètement à côté de cette chose essentielle, hein, qui est quand même que ces gouvernements, soit n'ont pas eu conscience de ce qu'ils faisaient, soit l'ont fait en conscience et ont pensé qu'effectivement, peut-être, ce ne serait pas inutile d'avoir ce loi. J'aime particulièrement la citation de Louis Vallon, qui est un gaulliste de gauche, hein, qui dit « Pourquoi faire une loi aux incidences multiples et lointaines dont vous ne pouvez pas prévoir toutes les imbrications ?» C'est particulièrement prémonitoire aujourd'hui. Hein. Dans l'humanité, on a des textes disant carrément que la situation en Algérie n'est qu'un prétexte. Bon. Alors, l'application en Algérie, de fait, elle a été relativement limitée. Limitée dans l'espace, parce que le gouvernement voulant nier l'ampleur des événements qui se passaient en Algérie, ils ont en fait déclaré l'état d'urgence d'abord dans des toutes petites portions de l'Algérie qui étaient celles qui étaient les plus gagnées par les maquis et par la mobilisation indépendantiste. Donc d'abord, il se limite à des arrondissements et des communes. En mai 55, le département de Constantine, et toute l'Algérie n'est concernée que le 28 août 1955. Donc tout ça, ce sont des décrets. Hein. Et puis voilà que le 1er décembre 1955, Edgar Faure a dissous l'Assemblée nationale. Et il était prévu qu'en cas de dissolution de l'Assemblée nationale, l'état d'urgence cesserait de s'appliquer. Donc à partir de ce moment-là, l'état d'urgence ne s'est plus appliqué en Algérie, il ne l'a plus été jusqu'à la fin de la guerre. Donc au total, il n'a été appliqué que quelques mois, et à l'échelle de l'Algérie tout entière, de fin août à début décembre. Donc c'est une application en fait extrêmement limitée. Et c'est en métropole que l'état d'urgence a été le plus en vigueur, d'abord au moment du 13 mai 58, quand il y a la mobilisation à Alger, les comités de salut public. Là, il ne reste en vigueur que 15 jours. Mais ce qui est très intéressant à ce moment-là, c'est que c'est le moment du ralliement de la gauche à l'état d'urgence. En avril 55, les députés communistes et socialistes, avec des députés UDSR et MRP, votent contre le projet de loi, mais ils ne sont pas majoritaires, donc ils ne peuvent pas faire échouer l'adoption de la loi. En 58, ils sont unanimes à soutenir l'application de l'état d'urgence en métropole parce qu'à ce moment-là, ils donnent un sens nouveau à l'état d'urgence. C'est une loi de sauvegarde du régime républicain mise en péril par les factieux d'Alger. Donc c'est très important parce que c'est une argumentation qu'on retrouve aussi aujourd'hui. Hein. Donc le même texte, à ce moment-là, alors vous avez même, Duclos qui monte à la tribune, qui cite Saint-Just, hein, pas de liberté pour les ennemis de la liberté, donc on renoue avec des discours sur l'exception qui sont vraiment à l'origine de la légitimation de l'exception dans le régime républicain. Hein. Pour se sauver, le régime républicain doit lui-même contrevenir à ses propres règles, ses propres idéaux, ses propres principes. Bon, il n'empêche que c'est très court. Le plus long, c'est 61-63. Et c'est uniquement, je le répète, en métropole. Qui est visé à ce moment-là, ce ne sont plus du tout les nationalistes algériens, c'est l'OAS, Hein. Le 22 avril 1961, j'espère que vous connaissez un peu l'histoire de la guerre d'Algérie, désolé si je vais un peu vite, c'est la tentative de putsch. Hein, vous savez, le carteron de généraux, Charles Zeller, Salan Jouot, qui à Alger tente un putsch contre le général de Gaulle. Il y a quelques jours quand même particulièrement compliqués. Eh bien, à ce moment-là, l'état d'urgence est déclaré en métropole et il est resté en vigueur jusqu'au 31 mai 1963. Si vous connaissez un tout petit peu votre histoire, on est après l'indépendance de l'Algérie, après la fin de la guerre en Algérie. Hein. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici sur cette prolongation? Je ne détaillerai pas, mais elle est pour moi particulièrement importante. C'est que, en fait, le Parlement a été contourné. Parce que le général de Gaulle, l'article 16 de la Constitution est entré en vigueur au moment du putsch, et c'est en utilisant l'article 16 que de Gaulle a prononcé l'état d'urgence en métropole. Donc il n'y a pas d'intervention parlementaire. Et quand il y a l'article 16, le chef de l'État peut prendre de simples décisions. Alors elles sont publiées au journal officiel, mais c'est une simple décision signée du général de Gaulle. L'article 16, l'application de l'article 16 a pris fin le 29 septembre 1961, mais de Gaulle avait pris une ultime décision qui prolongeait l'état d'urgence, et ensuite il l'a de nouveau prolongé sans passer par le Parlement, grâce à d'autres lois d'habilitation. En gros, il a eu en sa faveur plusieurs lois d'habilitation qui lui permettaient de mettre en œuvre toutes mesures nécessaires pour appliquer sa politique algérienne. Et en 61-62, la politique de Gaulle, ses négociations avec le FLN, tout le monde sait que ça va aboutir à l'indépendance, et donc les cibles, c'est l'OAS et les partisans de l'Algérie française. C'est très important parce que je pense que là où je veux en venir sur ce point de l'état d'urgence ou loi coloniale, c'est que c'est aussi, d'abord j'en sais rien, mais aussi une loi de la répression politique, qu'elle vise les nationalistes algériens ou qu'elle vise les partisans de l'Algérie française. Et donc l'argumentaire de dénonciation de l'état d'urgence au motif d'une loi coloniale, à mon avis, il est peut-être efficace politiquement et y compris aujourd'hui où c'est un argumentaire fort, sauf qu'on passe à côté d'une réalité essentielle parce que la menace sur les libertés n'est pas la même. Enfin, on faisait allusion tout à l'heure aux usages actuels de l'état d'urgence contre des manifestants, contre la loi travail de Manuel Valls, etc. Ben oui, et si vous pensez l'état d'urgence comme une loi coloniale, vous passez à côté de cette question-là, et l'histoire nous l'a déjà démontré. Finalement, c'est en métropole et c'est contre les partisans de l'Algérie française que l'état d'urgence a été le plus utilisé. Alors, cela dit, deuxième point, la portée de l'état d'urgence dans le droit français. Ce n'est pas parce que l'état d'urgence a cessé en tant que loi de s'appliquer en Algérie que certaines de ses dispositions n'ont pas eu de pérennité. Je reviens à la fin de l'application de l'état d'urgence avec la dissolution de l'Assemblée nationale par Edgar Faure en décembre 1955. À ce moment-là, il y a eu des élections législatives. C'est donc le Front républicain de gauche qui l'emporte les élections. Président du Conseil, l'équivalent du Premier ministre, est alors Guy Mollet, qui est de la SFIO. Et Guy Mollet fait voter par l'Assemblée nationale une loi connue sous le nom de pouvoirs spéciaux. Et en fait, ensuite, le gouvernement, par décret, a remis en vigueur des mesures qui étaient celles de l'état d'urgence, mais en les modifiant. Donc ça veut dire que même si la loi d'état d'urgence ne s'applique pas, il y a une pérennité, il y a une reconduction, il y a une remise en vigueur par les décrets des pouvoirs spéciaux. Mais du coup, il y a des dispositions de l'état d'urgence qui continuent de s'appliquer, qui sont modifiées et qui, d'une certaine façon, entament une trajectoire historique propre, détachée de la loi. Je prends un exemple précis, qui est en fait la disposition sur laquelle j'ai travaillé personnellement, donc c'est plus facile, mais on pourrait le faire avec d'autres. Cette disposition, en plus il se trouve qu'on en a pas mal parlé, c'est l'assignation à résidence. Vous avez ici l'article 6 de la loi du 3 avril 1955. Alors, cet article 6, c'est que le ministre de l'Intérieur peut prononcer l'assignation à résidence de toute personne dont l'activité s'avère dangereuse pour la sécurité et l'ordre public dans les circonscriptions où l'état d'urgence a été déclaré. Deuxième alinéa très important, en aucun cas l'assignation à résidence ne pourra avoir pour effet la création de camps. Ça, c'est un ajout de la commission de l'Intérieur de l'Assemblée nationale. Il savait très bien que l'assignation à résidence avait pour but de créer des camps dans lesquels on détiendrait les suspects. Sauf qu'on est 11 ans seulement après la fin du régime de Vichy et quantité de députés, pas tous de gauche, interviennent en disant « Attendez, nous les camps, on sait ce que c'est. Moi-même, j'ai été assignée à résidence dans un camp. On sait que l'assignation à résidence, ça peut être le support juridique d'un internement administratif. » Donc les députés ont ajouté cet alinéa. Peu importe, les premiers camps en Algérie ont ouvert dès le mois de mai. Alors, quand Guy Mollet, par les décrets des pouvoirs spéciaux, remet en vigueur des dispositions de l'état d'urgence, sur l'assignation à résidence précisément, c'est le moment où il légalise l'existence des camps. Par la mesure que vous avez ici, le gouverneur général, là il parle que de l'Algérie dans son décret, peut prononcer l'assignation à résidence surveillée ou non. Donc l'assignation à résidence surveillée, ça veut dire que la personne est internée dans un camp. Quand elle n'est pas surveillée, c'est une simple assignation à résidence dans une localité ou une circonscription territoriale. Et puis l'autorité pourra prendre toute disposition pour assurer la subsistance et l'hébergement des personnes astreintes à résidence. La subsistance et l'hébergement, c'est ça qui permet de légaliser les camps. L'euphémisme administratif pour désigner les camps d'internement civil, c'était des centres d'hébergement. Et le Conseil d'État a admis cette solution. Il y a un avocat qui a été interné, qui a fait un recours, qui est allé jusqu'au Conseil d'État en arguant du fait que l'assignation à résidence n'était pas une peine privative de liberté. Donc elle ne pouvait pas conduire à la détention dans un camp, mais le Conseil d'État a admis ce que le gouvernement avait voulu faire dans ce décret, c'est-à-dire que c'est pour assurer la subsistance et l'hébergement des personnes astreintes à résidence, qu'elles sont détenues dans des centres, alors on ne dit pas détenues, mais qu'elles sont amenées à vivre et à être prises en charge dans des centres. Hein. Alors ça, c'est le premier voyage, si je puis dire, après l'état d'urgence en Algérie, de cette disposition de l'assignation à résidence. Et puis ensuite, il y a eu trois extensions très importantes de cette disposition qui, encore une fois, vous voyez, continue de survivre et entame sa propre histoire alors même que l'état d'urgence ne s'applique plus en Algérie. Extension d'abord de ses usages. C'est la première extension. En Algérie, en 1957, les militaires obtiennent les pouvoirs de police et ils souhaitent pouvoir détenir en toute légalité leurs suspects dans des camps. Ils le faisaient en dehors de la légalité, mais il y a des pressions. Et puis les autorités civiles se disent aussi que ce serait quand même bien de savoir un petit peu ce que font les militaires, où est-ce qu'ils détiennent leurs suspects, qui est détenu, hein. Et donc, il y a une extension là, et on sort complètement de la question de la mise à l'écart momentanée d'individus qui seraient dangereux pour l'ordre public. C'est qu'en 1957, le ministre résident en Algérie délègue aux IGAM et au préfet d'Algérie le pouvoir d'assignation à résidence, avec la possibilité de le subdéléguer aux autorités militaires, ce qui s'est généralisé. Et donc, ont été ouverts à ce moment-là des camps qu'on a appelés les camps de triage, qui étaient uniquement sous contrôle militaire, qu'on a appelés après des centres de tri et de transit ou des centres de triage et de transit, dans lesquels les autorités militaires assignaient à résidence leurs suspects le temps de les interroger. Donc là, on rentre dans quelque chose qui est de l'ordre de la couverture d'une détention avec interrogatoire, détention militaire. Donc les fameux CTT, c'est le langage utilisé à l'époque, étaient connus évidemment pour être notamment des lieux de pratique de la torture. Hein. Donc là, on sort complètement de la mise en l'écart d'individus considérés comme dangereux. On rentre dans la couverture de la détention militaire à des fins de renseignement avec interrogatoire et torture. Je le dis souvent de façon caricaturale, mais c'est quand j'ai pas beaucoup de temps pour me faire comprendre, c'est des petits Guantanamo. C'est ça qu'il faut comprendre, hein, tout simplement. Hein. Alors, l'armée a aussi obtenu le pouvoir d'assignation à résidence pour une création de camps un peu particuliers qui s'appelaient des centres militaires d'internés, où là étaient assignés des rebelles capturés les armes à la main après tri sommaire et exploitation opérationnelle. C'est compliqué, on pourra revenir dans la discussion. Ça pourrait être des sortes de camps prisonniers de guerre pour maquisards. Ça n'en sont pas en réalité, d'abord parce que tous les maquisards faits prisonniers n'y vont pas. Ils continuent d'être exécutés sommairement ou même d'être traduits en justice pour divers motifs. L'objectif de ces lieux était en fait de détenir les combattants du FLN que l'on pensait susceptibles d'être ralliés. Et donc l'objectif, c'est écrit là dans l'instruction militaire dont je vous mets un extrait, l'objectif est la récupération par une formation civique appropriée, hein, donc c'est de l'action psychologique en vue de rallier ces combattants faits prisonniers, et les prisonniers restent soumis à la recherche du renseignement par leur interrogatoire, donc on n'est pas du tout dans le cadre de l'application des conventions de Genève. Troisièmement, quand je vous parlais de l'administratif et du judiciaire, il y a eu à Alger un protocole d'accord entre le procureur général d'Alger et le chef du corps d'armée d'Alger qui, en deux mots, permettait d'assigner à résidence et d'interner dans des camps des personnes qui auraient été relâchées par la justice. Donc il y a un accord qui permet d'assigner à résidence des gens qui sont l'objet d'un non-lieu, d'une condamnation avec sursis, d'un acquittement, mais aussi des gens qui ont purgé des courtes peines. Hein. L'idée est que la justice s'est prononcée sur des critères qui sont les siens, qui ne sont pas des critères d'efficacité, qui ne sont pas des critères de dangerosité de la personne. Donc, dans un point de vue de combat contre le nationalisme, c'est considéré comme insuffisant. Hein. Il y a tout un argumentaire contre cette justice inefficace avec toutes ses procédures et ses garanties. Et donc, on aboutit à ce protocole. Ça se pratiquait déjà avant, mais là, c'est réglementé. Alors, ça, c'est la première extension, une extension des usages. On est complètement en dehors de la mise à l'écart dangereux, d'individus dangereux pour l'ordre public. Deuxième extension, c'est l'extension à la métropole. Le 26 juillet 1957, une loi a étendu les pouvoirs spéciaux à la métropole. Là, je ne vous parle pas de l'état d'urgence. Hein. Les pouvoirs spéciaux de Guy Mollet avec tous leurs décrets. Et à ce moment-là, en métropole, c'est avant 58, hein, l'état d'urgence n'est pas du tout déclaré en métropole à ce moment-là. Les députés, là encore, qui discutent de l'application des pouvoirs spéciaux à la métropole, parce que le FLN a une fédération de France, mène aussi le combat sur le sol de la métropole, décident que on va admettre l'assignation à résidence, mais on va mettre une condition quand même, c'est qu'il faudra que la personne assignée à résidence ait été condamnée préalablement par la justice. Hein. Donc concrètement, il y a à ce moment-là deux camps d'internement qui ouvrent en métropole pour les nationalistes algériens, mais qui ne concernent que des gens qui sont passés par la justice. Donc il y a à ce moment-là extension de l'assignation à résidence à la métropole, simplement avec cette condition, qui est quand même un tout petit peu embêtante du point de vue des pouvoirs publics. D'où ordonnance, le 7 octobre 1958, une ordonnance permet d'assigner à résidence en métropole, exactement comme en Algérie, c'est-à-dire sans aucune condition. Les personnes dangereuses pour la sécurité publique en raison de l'aide matérielle, directe ou indirecte, qu'elles apportent aux rebelles des départements algériens, peuvent être éloignées des lieux où elles résident, être astreintes à résider dans une localité, soit être internées administrativement dans un établissement. Donc à ce moment-là, il y a deux autres camps d'internement qui ouvrent sur le sol français. Par ailleurs, la disposition être interné administrativement dans un établissement, ça conduit aussi à des assignations à résidence de courte durée de 2 semaines dans des locaux de police et qui couvrent en fait des gardes à vue, le temps d'interrogatoire, dans des lieux qui finissent aussi par être bien connus des militants algériens comme étant des lieux de pratique de la torture. Alors ça pouvait être dans une caserne, un commissariat, voilà. Donc en 58, on arrive au fait que ça c'est la deuxième extension. En métropole, on peut assigner à résidence comme en Algérie, il n'y a plus de conditions, et on a aussi un usage de l'assignation à résidence pour couvrir une détention policière avec interrogatoire. Troisième extension, c'est à l'égard des partisans de l'Algérie française. Donc je vous l'ai dit, il y a le putsch, entrée en vigueur de l'article 16, décision qui applique l'état d'urgence en métropole, et par ailleurs, cette décision, là ça vous permet de voir un petit peu à quoi ça ressemble une décision fondée sur l'article 16, disant que les dispositions de l'ordonnance de 58, celles que je viens de vous citer, sont applicables à toute personne qui, par quelque moyen que ce soit, participe à une entreprise de subversion ou encourage cette subversion. Donc là, ce sont les partisans de l'Algérie française et les membres de l'OAS qui sont visés. Donc voyez bien que même si l'état d'urgence s'applique plus en Algérie, très vite, en réalité, les dispositions qui ont été créées à l'occasion de la loi du 3 avril 1955 sont renouvelées par les pouvoirs spéciaux et connaissent une histoire autonome. Et à travers cette histoire de l'assignation à résidence, on voit bien une extension progressive, extension des usages, extension à la métropole, extension au-delà des premières cibles qui étaient les nationalistes algériens. Est-ce que j'ai encore un petit peu de temps parce que je n'ai pas bien regardé? D'accord. Alors, les outils du contrôle, quand même. Je voulais en dire un mot rapidement. Il y a quatre contrôles potentiels que l'on voit jouer, même s'ils ne jouent pas complètement. Donc, ce que je voulais vous dire, surtout que c'est rapide, ça va être un peu compliqué, ça va être à la fois que quand on regarde de très près, notamment dans les archives, on voit qu'il y a des limites, on les voit, mais en même temps, elles n'empêchent pas tout l'engrenage que je vous ai exposé. Première limite qui me semble intéressante, c'est le précédent historique, c'est ce que j'appelle le précédent historique. Dans les années 50, tout le monde a la Seconde Guerre mondiale en tête. Je vous ai cité le cas de la Linéa, bon, qui finalement ne sert à rien, mais quand même. Dans les débats à l'Assemblée nationale, beaucoup de députés sont totalement opposés à l'assignation à résidence au motif que ça risque de justifier la création de camps. On le voit autrement, notamment en Algérie, au moment où on met en place justement les camps d'internement, au gouvernement général, aucune direction du gouvernement général ne veut s'occuper des camps d'internement. Parce que pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu des camps d'internement en Algérie qui étaient beaucoup plus durs que les camps métropolitains. Et en 1944, il y a eu des procès de directeurs de camps à Alger. Et évidemment, le gouvernement général a largement été mouillé. Donc en 1955, aucune direction ne veut prendre en charge la gestion des camps. Donc les autorités sont obligées de créer un service ad hoc. Hein? Mais il y a eu quand même, il y a eu une réunion concrètement au gouvernement général avec les directeurs des différents services qui auraient pu être concernés et tous disent, moi, je gère pas, je construis pas, je veux pas le savoir. Hein? Et en particulier, là où ça a eu un effet important, c'est une direction qui s'appelle la direction du travail. Et parce que son opposition fait qu'on décide qu'il n'y aura pas de travail dans les camps. Donc c'est pas une influence mineure quand même, même si après sur la question du travail, c'est plus compliqué en réalité que l'interdiction totale, mais quand même. Hein, voilà. Y a ce précédent historique qui joue aussi pour légitimer les visites de commissions. Parce que pendant la Seconde Guerre mondiale en Algérie, il n'y a aucune visite des camps d'internement en Algérie. C'était vraiment des huis clos avec l'arbitraire des directeurs totalement libres de se déployer. Pendant la guerre d'indépendance algérienne, de multiples commissions rentrent dans les camps et les visitent. Alors après, les internés racontent qu'on mettait à l'écart ceux qui étaient un peu abîmés, que le quotidien s'améliorait, mais en même temps, les commissaires ne sont pas des idiots, ils réussissent à imposer au bout d'un moment d'avoir des entretiens avec des internés en dehors de la présence de l'administration. Il y a quand même un effet, et de fait, historiquement, c'est toujours mieux d'être dans un lieu où des gens peuvent pénétrer que d'être dans un lieu où personne ne met jamais les pieds. La limite de ce contrôle des commissions, ce sont les fameux CTT, les centres de triage et de transit. Là, vraiment, il y a des lieux qui restent le plus fermés possible, pas totalement, mais le plus fermés possible, et ça reste des lieux où la pratique de la torture, notamment, continue jusqu'à la fin de la guerre. Hein. Mais les camps civils, les camps gérés par les autorités civiles, sont quand même sous le regard de ces commissions. Commission internationale contre le régime concentrationnaire, le comité international de la Croix-Rouge aussi pénètre dans ces camps, et puis il y a des commissions parlementaires ad hoc, commissions gouvernementales. Deuxième contrôle, c'est le contrôle parlementaire. Je ne reprends pas tout ce que j'ai dit. Les parlementaires tentent, c'est intéressant de lire les débats, ils jouent un rôle très important. Ils le tentent avec l'alinéa sur l'interdiction de camp, ils le tentent avec la condition de la condamnation quand on étend les pouvoirs spéciaux à la métropole, où ils disent attention là, ou l'assignation à résidence on veut bien, mais quand même il faudrait que la personne ait été condamnée d'abord. Ça s'est balayé par l'usage des décrets, des ordonnances, l'article 16 et toutes les autres lois d'habilitation. Hein. Mais les parlementaires tentent de jouer leur rôle, même si finalement, là pour le coup, c'est un contrôle qui est inefficace, il faut bien le dire. Troisième contrôle, c'est le contrôle par la presse et les publications. Ça, il n'existe pas du tout en Algérie. Mais la grande presse métropolitaine, les grands quotidiens nationaux, les grands hebdomadaires nationaux mènent la campagne contre la torture en Algérie, enfin une partie d'entre eux bien sûr, et dans les ministères, on a peur qu'éclate le scandale, ce qui s'appelle le scandale du Larzac. Parce que parmi les camps d'internement en métropole, il y en avait un sur le Larzac, qui était dans le camp militaire, et où les conditions de vie étaient extrêmement rudes. Et en hiver, il y avait toujours la crainte d'une épidémie. Et on voit dans les archives qu'ils sont très soucieux des conditions sanitaires au camp du Larzac, parce que si jamais il y avait une épidémie au camp du Larzac, la presse pourrait s'emparer du scandale, et ce serait de nouveau une campagne contre la guerre anti-gouvernementale. Donc, voilà, ce qui est amusant, si je puis dire, c'est qu'il ne faut pas imaginer qu'on est dans un cadre où les internés sont passifs, ce sont des militants. Donc il y a une résistance, il y a des comités FLN dans les camps, et donc au Larzac, eh bien, les internés, quand ils ont vraiment envie de faire pression sur les autorités, ils font la grève des soins. Ils savent très bien que là, il y a un truc, que s'il se passe quoi que ce soit au plan sanitaire, il y a des possibilités de résonance et de scandale. Donc voilà. Sur l'intervention judiciaire, pour finir... toutes les mesures d'assignation résidence dont j'ai parlé ne nécessitent aucune information auprès des autorités judiciaires. Donc il n'y a pas de contrôle, hein, et vous l'avez vu avec le protocole d'accord à Alger, il y a une forme d'abdication. J'ai oublié de dire qu'en métropole, même s'il n'y a pas de protocole d'accord, de fait aussi, les personnes libérées par la justice sont internées. Ça, on le voit quand on travaille sur des archives d'avocats, où leurs clients, par exemple, qui bénéficient d'un non-lieu, sont arrêtés à la sortie de prison et internés. Hein. Donc, même s'il n'y a pas de protocole d'accord, de fait, la même chose se met en place en métropole. Sur les recours au tribunal administratif, il y en a... pas beaucoup, j'ai pas compté, hein, mais il n'y a pas beaucoup de contentieux administratifs. Ça renvoie aux contraintes ordinaires de l'accès à la justice. La majorité des internés, ce sont des Algériens. Alors, quand ils sont militants, il y a des formes d'alphabétisation, y compris de maniement du français, etc., qui font qu'ils ne sont pas démunis de ressources. Mais enfin, la masse des internés, c'est quand même une population démunie des ressources habituelles qui permettent de saisir le tribunal administratif contre un arrêté d'assignation à résidence. Il y a quand même des arrêtés, mais alors, c'est intéressant, ils sont des recours, pardon, ils sont faits par des Européens, par des avocats, parce que les autorités ont interné des avocats, et puis surtout les partisans de la Algérie française. Hein. Alors ça, on le voit si on travaille, moi c'est là-dessus que j'ai travaillé, sur les arrêts du Conseil d'État, il y a une surreprésentation des partisans de l'Algérie française parce qu'eux ont de fait toutes les ressources qu'on connaît bien comme étant celles qui facilitent l'accès à la justice, ils les ont en poche et eux font des recours contre les mesures qui les frappent beaucoup plus que les Algériens. J'ajouterais que le FLN n'a pas développé de stratégie, on aurait pu imaginer que le FLN développe une stratégie consistant à dire on va attaquer tous les arrêtés, on va engorger les tribunaux administratifs, ça ne les intéressait pas du tout, eux ce qu'ils ont investi c'est la justice pénale. Avec les avocats pratiquant la défense politique, etc., etc. Mais la justice administrative, c'est pas intéressant. Alors, pour finir, et c'est là que je trouve effectivement qu'on est en plein dans le propos de la journée, c'est que la conclusion pour moi de toute cette histoire, c'est qu'on voit à quel point, qu'une fois que l'état d'urgence ou ses dispositions sont tombées dans l'escarcelle des moyens du gouvernement, eh bien il est très difficile de les en faire sortir. Hein. Voilà, alors c'est une leçon vous allez me dire très simple, mais on n'avait pas besoin du présent pour le savoir. Hein. À travers l'exemple de cette période, on voit bien à quel point l'état d'urgence fournit des outils faciles et une fois qu'ils ont été appliqués et d'abord définis et puis ensuite appliqués dans un contexte particulier pour des cibles précises, mais c'est tellement pratique que c'est utilisé et on ne peut pas prévoir à l'avance quelle va être en fait l'imagination quand même des juristes pour utiliser ces dispositions pour des usages complètement imprévisibles en fait. Hein. Et notamment, l'ironie de l'histoire si je puis dire, c'est quand même cet usage massif contre les partisans de l'Algérie française alors qu'à l'origine c'était fait contre les nationalistes algériens. Hein. Voilà, j'en ai terminé.